Chapitre 33. Cette fille est folle. Molly, Stacy, peu importe comment elle s'appelle, est restée enfermée trop longtemps. Son traumatisme est trop grave. Je ne sais pas. Mais elle est dingue de penser que c'est moi qui suis responsable de ce qui lui arrive. Au contraire, je sauve les gens. Ce qui exige parfois de s'en prendre à d'autres. Devon Golding, sa peau qui fume, qui prend feu. Mais je n'agresse que les méchants. Et cette fille qui est là, ça ne compte pas. J'oblige la fille à se déplacer. À vrai dire, je m'approche d'elle et elle rampe hors du matelas pour s'éloigner de moi. Peu importe, ça me permet de récupérer le dernier éclat de bois planqué dans la doublure du matelas. Il est plus mince que je ne le voudrais, mais d'une longueur acceptable. Je retourne à la porte et je me mets au travail. Premier défi, trouver dans le noir l'emplacement approximatif du pen dans la gâche. Il faut que je repense à d'autres portes. Le plus simple est encore de me lever et de tendre la main sans réfléchir vers une poignée imaginaire. Une fois que j'ai repéré la hauteur, j'essaye d'enfoncer le morceau de bois dans la fente. Tout ça pour m'apercevoir que, si mince soit-il, il est encore trop épais. Je m'assois pour l'éplucher. Un vrai jeu d'enfant. Le bois se détache en longues lanières. Il y a quelque chose de rythmique dans ce travail, ça me détend. Pourquoi cette fille pense-t-elle que je suis responsable de ce qui lui est arrivé? Cette ombre sur le pas de ma porte, une voix menaçante. Un intrus qui a su ouvrir tous mes verrous sans même me réveiller. Un agresseur qui m'a enlevé à mon propre domicile sans que j'aie pu lancer la moindre contre-attaque et qui m'a amené ici. Assise dans le noir à déchiqueter un morceau de cercueil en pin, je sens le souvenir perdre peu à peu de sa substance. Se transformer en mauvais rêve. Le visage de cet homme, je n'arrive pas à le revoir. Qu'a-t-il fait ensuite? J'imagine qu'il s'est jeté sur moi, mais je ne m'en souviens pas. Et moi? Je suis restée sagement dans mon lit en attendant qu'il me tombe dessus? J'ai de nouveau mal à la tête. D'instinct, je lève une main pour me masser les tempes et je me flanque un coup de chaîne. Ce sera mon prochain défi. Même si j'arrive à ouvrir la porte, comment sortir de la pièce? Ça m'étonnerait que ma laisse soit suffisamment longue. Il va falloir enlever ces menottes. Les miennes et celles de la fille, me dis-je, pour qu'on puisse collaborer. Sinon, elle se sauvera. Elle me fuira. Je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Une fille à qui on a lavé le cerveau au point qu'elle croit s'appeler Molly. Ces cercueils en pin qui apparaissent d'eux-mêmes, tout droit sortis du passé. Quelqu'un va et vient dans cette chambre. Et là encore, jamais je ne me réveille. Jamais je ne réagis au bruit. Parce que je suis droguée? Ou parce que mon cerveau s'attend à ces bruits? Je secoue la tête. Violemment. Non. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je ne fais pas de mal aux gens. Seulement à Devon Golding, qui a hurlé en prenant son crâne en feu entre ses mains. Seulement à une jolie fille qui risquait de me prendre Jacob. Ce souvenir me revient de nulle part. Vite, je le chasse. Les victimes font ce qu'elles ont à faire pour survivre, marmonnai-je dans le noir. Ne te demande pas ce que tu aurais pu faire autrement. J'aimerais que Samuel soit là. Sa présence rassurante me serait bien utile dans ces ténèbres. Stacy Summers, me dis-je ensuite. Les images de son enlèvement. Un grand gaillard qui l'emmène de force. La preuve irréfutable que quelqu'un d'autre est impliqué. Deuxième pensée rationnelle. J'ai passé les dernières semaines à écumer la ville, les bars, les restaurants et autres lieux de rendez-vous pour étudiants en posant des questions sur Stacy Summers. Peut-être que je me suis plus rapprochée du coupable que je ne le pensais. Et peut-être qu'il s'est méfié, qu'il s'est renseigné sur moi. Mon histoire n'est pas exactement un secret. Enfermée pendant 472 jours dans un cercueil. Allons donc. La presse a adoré. Aucun aspect de ma déchéance, aucun détail salace sur ma captivité n'a échappé aux honneurs de la première page. Personne ne comprend ce que j'ai vécu et pourtant tout le monde connaît mon histoire. Cette nuisette légère, complètement absurde. J'essaye d'y réfléchir. Est-ce que Jacob m'avait acheté une nuisette en satin avec de la dentelle? Il m'avait acheté des vêtements, une robe d'été. De quoi est-ce que je me souviens? Qu'est-ce que j'ai un jour pu raconter tout haut? Je suis prise de frissons. Mes bras se hérissent de chair de poule. Je vais vomir. Je vais être malade. Je laisse tomber le morceau de bois. Je cherche ma respiration, les mains tremblantes. Je me retrouve à genoux, la tête basse, et je tremble encore plus violemment. Je lutte contre cette envie de vomir. Je sais quelque chose que je refuse de savoir. Le passé est important. Il est directement à l'origine de ce nouvel enlèvement. Mais je ne peux pas me permettre de prendre le temps d'y réfléchir. Parce que le passé est du passé, et que le seul moyen de sortir de cette pièce est d'aller de l'avant. De respirer à fond. D'oublier les cercueils, les nuisettes et Jacob Ness. De tout oublier. Je suis la Flora 2.0. Je suis entraînée et débrouillarde. Je vais me tirer d'ici. Sauver ma peau. Sauver celle de Stacy Summers. Nous disions donc, morceau de bois dans la rainure de la porte. C'est parti. Je veux rentrer chez moi. Je veux revoir ma mère et ses affreuses chemises à carreaux. Le renard en argent niché au creux de sa gorge. Je veux la prendre dans mes bras, et même si ce ne sera pas un câlin comme avant, même si ce ne sera plus la même chose, je veux que ce soit bien quand même. Je veux qu'elle sache qu'elle me manque, que je l'aime et que je suis désolée. Elle s'est donné tant de mal pour retrouver une fille qu'aucune de nous deux ne comprend plus. Elle se donne encore tant de mal pour m'aimer. J'enfonce le morceau de bois dans la rainure de la porte. Lentement, mais sûrement. Je le remonte par petits à-coups jusqu'à rencontrer une résistance. Le Pen. Bon, c'est là qu'on va avoir besoin d'un miracle. Je m'arrête pour réfléchir aux étapes suivantes. Dans le meilleur des cas, je vais réussir à rétracter le Pen et ouvrir la porte. Et à ce moment-là, la fille blessée pourra sortir. Moi, je ne pourrai aller que jusqu'où ma laisse m'en laissera le loisir. Et nous tomberons sur combien de personnes? Quel genre de menace? Ce n'est pas moi, insistai-je. Je ne suis pas le croque-mitaine qui sévit dans la nuit. Peu importe ce qu'elle croit, je n'ai pas kidnappé Stacy Summers. Je ne me suis pas kidnappé moi-même, en tout état de cause. Ce n'est pas parce que je ne me souviens plus de rien après le départ de ma mère que je ne sais absolument pas comment j'ai atterri dans cette pièce. Ceci n'est pas une crise psychotique. Ce n'est pas moi, le monstre. Bien sûr, une fois, il y a longtemps, mon pouls s'accélère encore. Je m'assois sur mes talons. D'un seul coup, je ne peux plus penser qu'à Jacob. Personne n'a envie d'être un monstre. C'est vrai, personne n'a envie d'être un monstre, même pas moi. Et pourtant, ce n'est pas le moment, me dis-je une nouvelle fois. Sortir de cette pièce, voilà l'objectif, la mission. Mais d'abord, il y a la question des menottes. Enfin quelque chose que je sais bien faire. Je m'éloigne de la porte, laissant le morceau de bois coincé dans la fente. Et je retourne en rampant vers le matelas, où, renonçant à toute subtilité, je déchire le coutil fragile à deux mains. Celui-ci part en longue lanière fine. Le vieux tissu élimé n'offre guère de résistance. À l'intérieur du matelas, je trouve la garniture. Elle sent le moisi, peut-être même une odeur un peu végétale. Ça me rappelle quelque chose, comme si je devais savoir ce que ça sent. La cuisine italienne? Non, ce n'est pas ça. Je continue et je note que le matériau est friable. De la mousse, me dis-je, qui se désagrège en vieillissant. Je continue à fouiller. Le matelas est mince, le genre qu'on met sur un lit de camp ou sur ces fauteuils Ikea convertibles. Il pourrait n'être qu'une grande plaque de mousse, mais ce n'était pas l'impression que j'avais quand j'étais couchée dessus. Il avait des reliefs et des vallées, des creux et des bosses. Même les matelas pour lit de camp ont des ressorts, question de durabilité. Et dans une ville étudiante comme Boston, où la moitié des logements sont meublés en Ikea, il est fort possible que ce matelas ait commencé sa carrière dans une résidence universitaire avant de trouver une deuxième vie ici. Je continue à fouiller et... bingo! Du métal. Un ressort. Enroulé dans la mousse. Tout est une ressource. Ce matelas est la mienne et j'entends bien m'en servir pour nous sortir d'ici. Je suis faible. Tremblante. Le stress me fait perdre mes moyens. Il me faut un temps anormalement long pour trouver l'extrémité du ressort et la redresser. Je ne sais pas si je pourrai l'arracher. Dans l'état où je suis, je ne pense pas que j'en aurai la force. Alors je choisis d'en tordre le bout. C'est que j'ai un de ces gadgets chez moi, vous voyez. On dirait de minuscules barrettes noires en plastique. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce sont des clés pour menottes, en vente dans la plupart des grands commerces en ligne. En général, avant de sortir, je les mets comme de minuscules pinces dans mes cheveux, à portée de main en cas d'urgence. Mais comme une imbécile que je suis, je n'ai jamais pensé à en mettre pour dormir. De sorte que je n'en ai pas sur moi. Mais je peux en fabriquer. Je m'en suis tellement servie que je les connais par cœur. Et ce fil métallique a précisément la bonne épaisseur. Dans le noir, mes doigts ripent et je me plante le ressort dans la tranche de la main. Je déguste et je prends une brève inspiration entre mes dents serrées, mais je continue. Même quand je me perce un doigt, quand je m'esquinte la paume, quand je m'ouvre le dos de la main. Le temps que je bricole un gadget susceptible de faire l'affaire, j'ai les deux mains glissantes de sang. Pause. Je m'essuie les mains sur la moquette. Je calme ma respiration.
Qu'est-ce que vous faites? Demande la fille dans le noir.
Pourquoi? Tu as encore peur de moi?
La porte n'est pas fermée à clé. Je ne l'ai pas fermée.
Mais tu l'as ouverte.
Il fallait bien ouvrir la porte pour voir ce que vous faisiez. C'était les ordres.
Donné par qui? Qui t'a dit de faire ça?
Vous le savez bien, murmure-t-elle. Je sais que vous le savez.
Ce n'est pas moi qui suis aux commandes ici, dis-je une fois encore, même si je ne sais plus pourquoi je me donne cette peine.
La porte est fermée, se lamente-t-elle. On ne peut pas sortir. J'ai essayé. Plein de fois, il n'y a que le noir. Et il se passe des choses horribles dans le noir.
Est-ce que tu as été enfermée dans un cercueil? La fille ne répond pas.
Nous sommes tous plus résistants que nous le croyons, lui dis-je. Et je ne veux plus jamais être une victime.
Alors que je peux être le monstre à la place. Je positionne mes menottes au-dessus du ressort tordu en forme de crochet et je me mets au travail. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois. En l'occurrence, peu importe que je n'y vois rien parce que je me suis souvent entraîné les mains dans le dos. J'ai l'habitude de me fier à mes sensations plutôt qu'à mes yeux. Mais normalement, la clé est plus petite et mobile. Donc, il me faut le temps de trouver mes marques. Cela dit, les serrures de menottes ne sont pas ce qu'on fait de plus compliqué et je me suis vraiment souvent, très souvent, entraînée. Le premier anneau s'ouvre avec un déclic. Plus vite, j'ouvre le deuxième. Et pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, j'ai les mains libres. Je les lève,
Je me masse les poignets. Ça paraît étrange et merveilleux de pouvoir écarter les bras, les bouger indépendamment l'un de l'autre. Je sens que la fille m'observe dans le noir. Je sais qu'elle ne peut pas voir mes mouvements, mais elle a dû entendre quelque chose. Ou peut-être simplement qu'elle devine le miracle que représente cette petite amélioration de notre situation. « Tu voudrais avoir les mains libres ?» lui demandai-je.
« Quoi ?
Est-ce que tu veux que je t'enlève tes menottes ? Je peux le faire. »«
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Viens par ici. »«
C'est tout ? » ?»«
Dirige-toi vers moi au son de ma voix. Je vais t'aider. » Elle hésite. Elle a peur de moi. Avec raison ? Je ne sais pas. Tout ça n'a aucun sens pour moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Comment suis-je arrivée ici ? Un intrus s'est-il réellement tenu sur le seuil de ma chambre ? Et comment ai-je fini ligotée au bout d'une laisse, sans avoir résisté, sans avoir lutté, sans même avoir repris connaissance pendant qu'on ouvrait la porte de cette pièce pour livrer non pas un, mais deux cercueils ? Comment quelqu'un d'aussi intelligent que moi a-t-il pu tomber à ce niveau de stupidité ? La fille s'approche de moi dans le noir. Je l'entends progresser lentement, entraînant les pieds. Je surprends son hoquet de douleur lorsqu'un faux mouvement tire sur sa blessure. Celle que je lui ai infligée. Enfin, elle est là. Si proche que je sens son souffle. Je tends les mains pour attraper les siennes, tâte les contours de ses menottes avec mes pouces. Ne bouge pas. Je place ses poignets au-dessus du ressort crochu, et les yeux fermés pour me concentrer, je m'efforce de guider ma clé improvisée vers les petits orifices de chacune des menottes. Ça ne va pas sans mal. Ce n'est pas brillant, mais je finis par avoir gain de cause. Les menottes tombent. Je sens la fille lever les mains, et tirer ses bras d'un côté et de l'autre. C'est vrai, ce dont je me doutais tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire d'avoir des yeux pour percevoir l'émerveillement. On le sent, même dans le noir. Pourquoi ? Demande-t-elle. C'est sa question du jour. Je lui dis la vérité. Parce qu'on va sortir d'ici.